Sous la coupole. Une émission de la rédaction de Canal Academy.
La langue française restait à jamais dans la médiocrité sans un de ces génies faits pour changer et élever l'esprit de toute une nation. C'est le plus grand de nos académiciens, c'est Corneille seul, qui commença à faire respecter notre langue des étrangers, précisément dans le temps que le cardinal de Richelieu commençait à faire respecter la couronne. L'un et l'autre portèrent notre gloire dans toute l'Europe. C'est Voltaire qui, prenant séance à l'Académie, rendit ainsi hommage à Corneille. Le quatrième centenaire de la naissance de Corneille sera célébré en 2006. En ces temps où l'Académie déplore que la langue française soit malmenée par ceux dont elle est le bien le plus précieux et menacée dans son influence extérieure, évoquer sous la coupole celui qui emporta la gloire dans toute l'Europe, n'est-ce pas la meilleure manière de dire notre foi dans l'immortalité de la langue française et de son génie. Peut-on parler de Corneille brièvement ? Son neveu Fontenelle, qui fut aussi son premier biographe, a écrit « Il avait l'air fort simple et fort commun, toujours négligé et peu curieux de son extérieur, il parlait peu. Pour trouver Corneille, il faut le lire. Suivons Fontenelle, abandonnons l'homme pour l'œuvre grâce à laquelle il fut considéré en son temps comme l'un des quatre plus grands poètes de l'humanité, avec Homère, Virgile et Le Tasse. Et de cette œuvre immense, retenons trois versants. Les comédies, symbole d'une jeunesse éblouissante et fantasque. Le Cid et la rencontre avec l'Académie. Enfin, Polyeucte et le grand poète chrétien. En 1636, la paix s'effrite. Les croquants soulèvent le Périgord et les Habsbourg prétendent dominer l'Europe. Les partis se mobilisent alors pour ou contre les choix politiques de Richelieu. Parti espagnol rassemblé autour de la reine fille d'Espagne. Parti d'opposition à l'Espagne. Les grands se dressent contre Richelieu qui veut renforcer l'État. C'est dans cette atmosphère plus tendue que l'on joue le Cid en janvier 1637. Le triomphe de la pièce fut immédiat. Tant de spectateurs s'y pressaient qu'il fallut, contre tous les usages, les placer dans tous les recoins du théâtre et même sur la scène. Nul besoin de raconter le Cid, il est dans toutes les mémoires, mais il faut dire comment il fut entendu par les spectateurs de ce temps. Le Cid est avant tout le choc de deux temps historiques et de deux générations. Le couple Chimène-Rodrigue incarne la jeunesse de l'époque de Louis XIII. En face de ce couple élu, se dressent les guerriers du temps d'Henri IV, qui, au nom des services rendus, prétendent imposer leur autorité à leurs enfants, mais aussi au roi. Conflit du père et du fils. Don Diègue exige de Rodrigue qu'il fasse sienne sa querelle et remplisse un devoir barbare. Meurs ou tue. L'injonction est inacceptable à une génération qui a connu la paix. Le Cid montre aussi l'arrogance des grands à l'égard du roi. À Don Arias, qui lui oppose le pouvoir du souverain, le comte crie son dédain d'un sceptre qui, sans moi, tomberait de ses mains. Et il ajoute « Désobéir un peu n'est pas un si grand crime. » En tuant le père de Chimène, c'est le roi que Rodrigue débarrasse en dernier ressort d'un grand bien encombrant. Et l'on comprend que le roi mette peu d'empressement à satisfaire l'appel à la justice de Chimène, elle-même déchirée entre ce que lui commande la décence et son amour pour Rodrigue. Le roi et Chimène se jouent ainsi à l'intérieur de la pièce une comédie des apparences. Dans leur dialogue, tout sonne faux, la rigueur du roi et les cris de Chimène. Le Cid pose aussi la question espagnole qui vient de ressurgir. Les Espagnols ont menacé Paris. Le récit par Rodrigue de sa victoire sur les morts ne fait-il pas écho au récit de la reprise de Corbie ? Et les spectateurs de s'interroger. Cette pièce serait-elle à la gloire de l'Espagne, dont elle présente une image éblouissante, ou des vainqueurs de Corbie ? Le théâtre français a toujours été séduit par l'Espagne. Une Espagne joyeuse, ponctuée de chants d'amour et de combat, royaume de la jeunesse et d'une certaine folie. On retrouvera cette fascination chez Victor Hugo et chez Paul Claudel. Le Cid clôt le cycle des œuvres de jeunesse de Corneille, dont il reprend tous les thèmes. L'amour est le véritable moteur de la pièce, mais il ne triomphe qu'au prix d'une victoire totale du héros dans l'épreuve qu'il a dû affronter. Le bonheur de Chimène et de Rodrigue dépend de l'héroïsme de ce dernier, qui, en triomphant, réconcilie deux ordres, celui de l'amour, celui de la loi et de la cité. C'est dire que Corneille n'ébranlait pas, loin de là, l'ordre établi. Et pourtant, dans la querelle qui naît en 1637, l'ordre public et la morale au théâtre lui sont opposés. Scudéry, auteur moins heureux que Corneille, jaloux de son immense succès, lança le débat. Il accusa Corneille de plagiat. Grief étrange, en un temps où tout auteur pillait sans scrupule les œuvres du passé ou celles des étrangers. Il brandit aussi l'irrespect des règles. Certes, 24 heures ne pouvaient en serrer toute l'action du Cid. Mais Guèze de Balzac, farouche partisan de Corneille, écrira à Scudéry, dans une lettre dont tout Paris s'enchanta, « Considérez, monsieur, que toute la France entre en cause avec lui. C'est quelque chose de plus que d'avoir fait une pièce régulière. » Les critiques portaient aussi sur le fond. Peut-on tout dire au théâtre ? Les mauvais exemples ne sont-ils pas contagieux ? A-t-on le droit de divertir au récit de monstruosité ? Le poète ne doit-il pas sacrifier le vrai à la vraisemblance ? Et Chimène, fille dénaturée, impudique, n'était-elle pas un personnage trop détestable pour être proposé aux applaudissements du public ? Scudéry en appela à l'Académie, lui demandant d'être le tribunal d'un étrange procès. Tâche inattendue et embarrassante pour la compagnie tout juste fondée par Richelieu. Ses statuts ne lui permettaient de juger d'un ouvrage qu'avec l'accord de l'auteur. Corneille consentit du bout des lèvres, laissant entendre qu'il se soumettait à une volonté supérieure à la sienne, supérieure aussi à celle de l'Académie. Celle de Richelieu, pensait-il. Pressé de juger, l'Académie réagit par un texte intitulé « Sentiments de l'Académie française sur le Cid », dont Sainte-Beuve écrira dans Les Nouveaux Lundis que placé entre le cardinal de Richelieu qui distribuait des pensions et le public qui donne la considération, les académiciens s'en tirèrent dignement. Le jugement de l'Académie, écrit-il, fut très supérieur aux pamphlets consacrés au Cid. Voltaire puis Sainte-Beuve se sont interrogés sur les sentiments du cardinal dans ce conflit. Pélisson, premier historien de l'Académie, évoqua une jalousie d'auteur et Fontenelle écrivit « Quand le Cid parut, le cardinal en fut aussi alarmé que s'il avait vu les Espagnols devant Paris. » Corneille crut certes à l'hostilité du cardinal, bien qu'il fût pensionné par lui et que son anoblissement, coïncidant avec le triomphe du Cid, avait très probablement été approuvé par lui. Mais lorsque le débat sortit des limites de la bienséance, c'est de Richelieu que viendra le coup d'arrêt. Plutôt que de l'imaginer jaloux des succès du poète, mieux vaut avec Voltaire retenir des raisons politiques. L'autorité de l'Académie naissante d'abord. Le cardinal l'avait fondée, et en lui confiant le soin d'arbitrer une querelle littéraire qui faisait grand bruit, il consacrait son magistère dans le domaine de l'esprit. La question espagnole mérite aussi de figurer dans ses explications. Richelieu a pu s'alarmer de voir le parti espagnol applaudir bruyamment le Cid, saluer en Rodrigue une incarnation de l'héroïsme castillan. Autant d'hommages rendus à l'Espagne et à la reine de France, autour de laquelle se rassemblaient tous ses adversaires. Corneille livra son sentiment sur cette affaire dans l'épître dédicatoire de la suivante. Le premier but du théâtre, écrit-il, est de plaire à la cour et au peuple, et non aux grands ministres et aux académiciens. Mais la querelle s'éteignait déjà. Corneille attendra cependant que le cardinal eût disparu pour faire la paix avec l'Académie. Auréolé du succès du Cid, puis d'Horace et de Cinna, il y posa alors sa candidature. L'Académie fut-elle effrayée de cette gloire qui risquait d'éclipser celle de certains de ses membres ? Battue à deux reprises par d'insignifiants rivaux, Corneille fut élu triomphalement en 1647. Il avait alors 41 ans et pendant 37 ans, il participa très activement aux travaux de la compagnie dont il devint doyen d'élection. Corneille, le plus grand des classiques, fit naître un nouveau théâtre. Il sut dire dans une langue éblouissante le réel, mais il fit aussi surgir la légende derrière l'apparence des choses, conviant les spectateurs à discerner les signes mystérieux dont l'univers était rempli. La fusion du vraisemblable et du merveilleux, c'est là tout Corneille. C'est la révolution que lui doit le théâtre classique. Peut-on mieux conclure qu'en pastichant Boileau, enfin, Corneille vint.
Vous venez d'écouter un extrait du discours sur Pierre Corneille prononcé par Madame Hélène Carrère d'Encausse, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, lors de la dernière séance solennelle de rentrée de cette Académie. L'année 2006 célèbre en effet le 400e anniversaire de la naissance de l'auteur dramatique français du Cid, de Polyeucte, d'Horace, de Cinna, Pierre Corneille.